nous inspirer de belles traces pour nous faire rêver. Oh, 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 de belles traces.
Allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Belle Trace. Mon invité du jour a gagné tous les grands titres possibles sous le maillot de l'équipe de France. Les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde et les Championnats d'Europe. Voilà, c'est la totale. Il a même été le capitaine des costauds du handball français lors du Sacre Olympique à Pékin en 2008. J'y étais, donc j'ai vu, je l'ai vu. C'est un hyperactif, donc ça n'a pas été facile de le coincer. Mais ça y est, il est en face de moi, là, ça y est, c'est trop cool. Je m'en réjouis. Car, à chaque fois, nos discussions sont riches et passionnées. On devrait donc passer un bon moment, car il n'a pas non plus la langue dans sa poche, Monsieur Olivier Giraud. Merci de venir au micro, de belles traces, mon Olive.
Il n'y a que toi qui pouvais me faire me déplacer.
Vraiment, je suis trop contente. Je suis trop contente. Comment ça va?
Écoute, ça va bien.
Ouais.
Ça va bien. Ça va bien. C'est une année formidable. Une année formidable. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Parce que je pense que quand on discute, il y a la différence de connaître les Jeux Olympiques et les connaître comme acteur, que tu sois consultant ou sportif, encore mieux, et le regarder à la télé. Et tu vois, ces dernières années-là, elles ont été assez marrantes. Je prends l'expression marrante, mais on pourrait utiliser autre chose. Parce que je pense que les gens n'ont pas compris, en fait, que c'est juste la compétition la plus extraordinaire du monde qui arrive à côté de chez eux. J'entends des trucs de dingue. On va partir à l'extérieur de Paris. C'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, les Jeux, ce n'est pas seulement l'exploit sportif. C'est une rencontre universelle du sport. Mais universelle, mais pas seulement ceux qui sont sur le terrain. Mais ceux qui viennent le voir, le monde entier va venir. C'est peut-être l'endroit où naturellement il y a le plus de fraternité dans les villes, que toutes les villes que j'ai pu visiter. Et les Français vont s'en rendre compte. Mmh. Mais ça a été quand même assez bizarre de voir ces réactions autour des Jeux. Parce qu'en fait, c'est pas du tout ça les Jeux. Et donc, je suis très content qu'il y ait les Jeux à Paris parce qu'enfin, les gens vont comprendre ce que c'est vraiment les Jeux et que les Jeux, ce n'est pas que pour les athlètes, c'est aussi un partage avec les gens qui viennent le voir.
C'est vrai qu'il y a cette ambiance un peu, on a tendance à critiquer tout et n'importe quoi. On ne sait pas, en plus maintenant avec les fake news, etc., il y en a qui s'acharnent. Mmh. Tu dis, mais c'est dingue en fait. C'est une opportunité fabuleuse d'avoir ces Jeux pour nous.
Écoute, en tant que Parisien, là, il va y avoir le parcours de la flamme,
oui,
qui a déjà commencé, hein, mais qui va se balader sur les terres de l'Hexagone, comme on dit quand on est ultramarin. On l'avait déjà vu le prémis avant Pékin. Lorsque la flamme, oui, on s'était un petit peu baladé. Et c'est, en tant que sportif, c'était les premières fois où on avait du mal avec cette incompréhension. Et surtout, cette manière qu'il y avait eu... c'était une des premières fois que je voyais ça, de prendre en otage le sport lorsqu'il y a la lumière sur le sport. Et c'est un peu dommageable. Et je pense sincèrement que c'est à ce moment-là que le sport doit être hyper soudé et montrer à ce moment-là qu'on est différent. Et que ce ne sont pas juste des mots écrits sur une charte, mais que ces valeurs-là, à 98%, parce qu'il y a toujours des brebis galeuses, eh ben, les gens le portent chevillé au corps parce que c'est un art de vivre.
C'est clair que aux États-Unis, les sportifs se reconnaissent en tant qu'Olympiens. Ça fait partie d'un CV.
Ouais.
Chez nous, non.
Non, non, non.
C'est quand même dommage.
Bah, parce qu'en fait, chez nous, c'est à la fois normal et pas normal. Parce qu'il faut faire l'histoire du sport et surtout l'histoire de la géopolitique du sport pour voir ces différences d'acculturation à l'olympisme. On est un pays qui est extraordinaire, mais extraordinaire aussi dans les faiblesses de ses forces. Je m'explique. La France est un pays où on ne se rend pas compte, mais tout le monde peut avoir accès au sport. C'est un pays sportif. qui doit travailler évidemment sur sa politique sportive, mais c'est un pays très très sportif. C'est-à-dire dans quel pays, et toi comme moi on a voyagé un petit peu, tu peux aller à côté de chez toi et quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, tu peux trouver un club à côté pour pratiquer. Tu as déjà vu parce que ça fait partie des sujets qui reviennent souvent sur le modèle sportif. Est-ce que on ne devrait pas copier le modèle des Anglo-Saxons? Mmh. Alors que leur modèle, il est socialement, sanitairement dangereux. C'est-à-dire qu'ils ont une organisation où, quand tu regardes le sport à l'école, le sport à l'école, c'est aux États-Unis, ils ont créé un concept fabuleux autour de ça. Mmh. Mais on ne s'attache pas à une chose, c'est qu'une fois que tu sors de l'école, si tu ne joues pas dans un club professionnel, ben, y a un truc fabuleux, c'est que tu deviens un consommateur du sport. Et c'est pour ça aussi, on dit, tiens, aux États-Unis c'est plein, et chez nous, c'est pas plein. C'est parce que tout simplement, chez nous, le samedi, les gosses, plutôt que regarder la compétition des pros, ben, des fois, ils vont faire leur propre compétition, ils vont faire leur propre sport, dans les salles de sport collectif également, le week-end, les gamins, les adultes. Et c'est pour ça qu'il y a une manière différente de consommer le sport, mais ça ne veut pas dire que c'est une manière de consommer le sport à rabais par rapport à une image très sportatement qu'ont les Américains. Et donc, il y a une chose que je ne comprends pas, parce que en fait, nous sommes beaucoup de sportifs à connaître les modèles. Par contre, nous sommes très peu à démonter les modèles qui ne sont pas les nôtres et surtout à reconnaître les qualités de notre modèle.
Est-ce que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui tu es directeur de l'UNSS, que tu t'es dit c'est une opportunité d'être au cœur de cette éducation par le sport et d'être vraiment un acteur et pas seulement au niveau de la périphérie, parce que là pour le coup t'es vraiment au cœur en étant directeur de l'UNSS.
Ouais, c'est un truc assez hallucinant. Il l'était avant que je prenne le poste. Il est d'autant plus depuis que je le pratique et que je l'exerce depuis maintenant presque 2 ans et demi. Parce que j'en étais déjà persuadé, et là c'est totalement personnel. Je fais partie de ces sportifs qui comme on aime à dire, qui sont passés à travers les mailles du filet fédéral. C'est-à-dire qu'au handball, j'étais même pas pris en équipe de département, pour tout te dire. Hein. J'étais pas assez fort. 3 ans après, je joue en première division. Mais là n'est pas le sujet, c'est que en fait, on a un modèle où en fait, on pourrait réduire les mailles du filet et récupérer des enfants qui n'ont pas suivi le même cursus pour des raisons multiples. Hein. Il y a des raisons de budget familiaux, ça arrive souvent. Mais il y a aussi des raisons de l'endroit où on vit. Hein. Aujourd'hui, on a une réflexion sur ces jeunes qui passent au travers des mailles du filet, qui vivent dans des territoires ruraux ou montagneux. Hein. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. Et là où il n'y a pas d'association sportive dans ces territoires retirés, il y a toujours une école. Il y a toujours une association du sport scolaire. Et que dans ces temps compliqués que nous vivons et que notre jeunesse vit aujourd'hui, les questions qu'on se pose sur la laïcité, sur des questions sur qu'est-ce qu'est être républicain, qu'est-ce qui fait un bon citoyen français. Et ben comme le sport, plus tôt on l'apprend et plus ça fait partie de nous, les compétences inconscientes. Et donc, le sport scolaire, il sert à ça. C'est pour ça que aussi, il doit mieux se faire comprendre parce qu'il est compliqué, il est complexe. Sa complexité le protège, mais sa complexité l'isole aussi. C'est-à-dire que une fois que vous passez directeur du national du sport scolaire, je pense que on peut aller n'importe où assez aisément. C'est beaucoup de travail, c'est 37 000 professeurs de PS, c'est 9 500 établissements, c'est 1 200 000 enfants que nous éduquons par le sport, et c'est là que c'est important. Parce que, par exemple, les professeurs de PS, en fait, ce qui est important au-delà de l'apport sportif auprès des élèves, de l'apprentissage de multiples sports, ce sont des personnes qui ont Bac plus 5 avec des spécificités très marquées comme la psychologie de l'enfance. Mmh. Et que finalement, le sport devient un formidable prétexte. Parce que notre souci premier, nous, c'est de travailler sur la confiance en soi de ces élèves. Dans tous les programmes que nous mettons en place, c'est-à-dire que quand on fait du hand comme les fédérations délégataires, comme la fédé de hand, mmh. mais on fait aussi du hand où il y a le même nombre de filles et le même nombre de garçons. Et ça fonctionne, parce qu'en fait, c'est un engagement. On ne force pas les enfants à choisir ces voies. Ils choisissent eux-mêmes, au-delà de leurs parents. Mmh. Là où, à la maison, l'enfant va lui dire « Fais du foot comme papa » ou la jeune fille « Fais de la danse ». Non, la jeune fille, si elle a envie de faire du foot, elle fait du foot. Si elle a envie de faire de la boxe, elle fait de la boxe. Elle peut choisir son sport et sa vocation et ce qu'elle aime. Et je crois que c'est la base du talent, c'est d'abord aimer ce qu'on fait. Mmh. Et donc, on leur donne ceci, mais on leur donne aussi des règles de vivre ensemble, sur, par exemple, chez nous, il n'y a pas de sport uniquement pour les enfants en situation de handicap. Ça n'existe pas chez nous.
D'accord.
Non, il existe autre chose. Nous faisons du sport partagé. Donc, dans n'importe quelle activité qui serait une activité, je dirais, para, elle est toujours inclusive. Et en fait, les enfants valides aussi bien peuvent le faire que les enfants en situation de handicap. Ce qui crée quelque chose d'incroyable hein, sur, par exemple, les crosses, qui est un élément important chez nous. Ces enfants-là, quand ils passent la ligne ensemble, parce qu'ils sont obligés de passer la ligne ensemble, bah, assurément, on le voit sur leur visage, et c'est même assez émouvant, bah, l'enfant en situation de handicap, en termes de confiance, quand il retournera à l'école, il ne sera plus jamais le même. Et le valide qui l'a accompagné, son visage, son regard sur le handicap, il va complètement changer. Et nous, toi comme moi, nous en sommes persuadés parce qu'on a vu les premiers sportifs para arriver. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, la seule chose qu'on voit d'un sportif para-olympique, c'est que de temps en temps, vu qu'il est assis, il est 20 cm en dessous de toi. Mais à part ça, au-delà des leçons de vie qu'il nous donne, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de différence. À part une mobilité plus réduite ou certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire comme les valides, mais il faut aussi quantifier tout ce qu'ils développent de plus que quelqu'un qui a la chance de tout avoir.
Ouais, c'est fort. C'est fort et c'est fort de le faire à l'école comme tu dis parce que c'est pas juste faire du sport, c'est partager ces moments. Ça change tout le monde en fait, aussi bien les personnes, enfin les enfants handicapés que les presque certainement presque plus les enfants valides.
Oui, oui.
Tu parles beaucoup aussi de ça pour éviter de parler de toi, mais on va quand même parler de toi un petit peu. Enfin, si tu as envie. Oui, tu parlais de ces enfants qui découvrent le sport. Mmh. Toi, tu es né à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Comment tu as découvert le sport et le hand?
Alors, ça va être encore atypique, pour un alien. Mais à la base, je suis footballeur, moi. Voilà, jusqu'à 13-14 ans, je joue au foot encore.
Et en Guadeloupe ou
Non, en fait, je suis arrivé... Tu veux que je parle de moi
je veux que tu parles de toi.
Je suis arrivé dans l'Hexagone, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans. Là, par contre, il faut toucher à des systèmes et des décrets français qui datent de Michel Debré. Je suis arrivé en 78, mais ma mère est arrivée en 75. Je suis né en 73, et ma mère est venue travailler à la poste à Boulogne-Billancourt parce que on pourra faire de l'histoire, mais entre 58 et 78, 600 000 ultramarines, je précise bien, femmes, ont occupé des postes qu'il manquait cruellement dans l'Hexagone. C'est pour ça que on a beaucoup d'humour, les Antillais, parce qu'on se moque beaucoup de nous-mêmes. Le sketch de Marie-Thérèse, c'est ma mère. C'est-à-dire que ces postes, c'était, vu que c'était le plein emploi dans ces périodes-là, dans ces 20 années, il y avait des postes où les hexagonaux ne voulaient pas occuper. Donc, on a appelé des ultramarines pour les occuper à la poste, infirmière, voilà.
Tous les donc, postes. Toi, tu es venu 3 ans après ta maman.
3 ans après ma maman, voilà. Je ne l'ai pas vue pendant 3 ans. Donc, globalement, je ne savais pas trop qui était cette dame quand je suis arrivé à l'aéroport.
Ah oui, parce que de 3 à 6 ans, c'est...
Par contre, il y avait mon grand frère qui était arrivé un an avant moi. Mm-hmm. Et ouais, j'ai reconnu mon grand frère, mais pas ma mère dans le premier temps. Ouais, c'est,
ah, oui.
Mais on vivait comme ça. Mm-hmm. C'était comme ça. C'était, c'est, on n'avait pas le choix. C'était les insulaires. D'ailleurs, on appelait ça les territoires d'outre-mer,
oui.
à l'époque. Et donc...
Donc, t'as eu froid quand t'es arrivé quand même ?
Non, parce que je suis arrivé en été.
Ah bon.
Je suis arrivé en été. On m'a dit que je venais en vacances pour voir ma mère et je suis jamais rentré. Donc, ouais, c'était assez particulier. Et c'est pour ça que je n'essaye pas de comparer les générations parce qu'elles sont totalement différentes et les indices qu'on a sur sa vie sont ceux de sa propre histoire.
Mm-hmm.
Se dire que raconter mon histoire à des jeunes, c'est pas du tout la même vie. Se dire que ce que nous avons vécu aujourd'hui serait totalement inacceptable.
Mm. Alors le petit Olivier qui arrive, qui joue au foot donc, hein,
ouais.
C'est ça ?
Ouais.
Et comment il découvre le hand ?
À l'école.
À l'UNSS alors.
Ouais, à l'UNSS,
voilà.
Ouais.
Et comme quoi, la boucle.
Oui, oui. Et c'est pour ça que c'était incroyable d'arriver à ce poste, parce que je ne sais pas si le sport scolaire, et je le dis souvent, donc...
Attention, tu vas repartir encore sur...
Non, ça fait, s'il a fait de moi un champion olympique,
oui.
Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, assurément, il a aidé à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui.
Ouais. Oui, c'est sûr.
C'est-à-dire que les gens qui m'ont encadré, ces professeurs de PS qui m'ont encadré, m'ont appris énormément de choses. Énormément de choses, avec énormément de bienveillance. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait énormément de reconnaissance dans ce métier, parce que c'est un métier de passion. Ce sont des gens qui, quand ils viennent dans ce métier, dans ce cursus, ils le font par conviction. Mmh.
Tu te souviens d'un professeur particulier qui t'a donné la flamme ?
Oui, il était très particulier.
Oui.
Il était très particulier parce que c'était un champion. C'est-à-dire que c'était, il est arrivé, il avait un plâtre à la main, donc c'est pour ça qu'il était auxiliaire et il faisait un remplacement. Il s'appelle Nicolas Cocherie, qui jouait en équipe de France à l'époque de handball, qui jouait à Gagny m'a fait faire, il m'a dit, tiens, bah, t'es pas mal, tu cours pas mal, vas-y, fais un petit peu de hand. Et en fait, j'ai adoré, j'étais nul, hein, mais vraiment nul. Hein. Mais par contre, vu que je venais de l'athlétisme et du foot, bah, en fait, ils avaient...
Les qualités physiques étaient...
Ouais, ouais, je pouvais courir pendant des heures. Je pouvais courir pendant des heures. J'ai dit, ah, tiens, c'est que deux fois 30 minutes, c'est déjà fini. Mais en tout cas, plus que le hand, il m'a appris qu'on pouvait faire du sport et c'était la première fois que je me concentrais sur moi. Et c'était vraiment quelque chose où je me faisais plaisir. À moi, c'était mon choix.
D'accord.
Et bon, je l'ai compris bien des années plus tard en lisant un petit peu, lorsque j'ai lu un des livres d'Idriss Aberkan. Mm-hmm. Qui a des pensées qui sont intéressantes, hein, sur l'éducation. Il te dit que en fait le talent, c'est une formule mathématique, c'est le temps par l'attention. C'est-à-dire que l'attention, c'est l'amour de ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on aime ce qu'on fait, on peut le faire pendant des heures, et qu'en fait c'est l'amour de ce qu'on fait qui fait qu'on peut y passer des heures sans s'en apercevoir, mm-hmm. et qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'heures, ben, on acquiert une compétence.
Mmh.
Et que le talent, c'est ça. Donc, quand on pose la question, et ça arrive assez souvent, mon fils, il aimerait être sportif de haut niveau. La première question que je pose, c'est est-ce qu'il aime ça déjà ? Pourquoi il fait ça ? Mmh. Et c'est une question hyper importante. Hein. On va revenir à moi. Hein. c'est une question hyper importante parce que Aujourd'hui, on voit quelque chose de très néfaste et que personne ne voit le danger de ça. C'est la Mbappésisation du sport. C'est-à-dire que les parents, le sport est devenu un accessit social.
Oui.
Et que limite, plus important que l'école. C'est fou. C'est fou. Et ça amène à des dérives. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est l'objectif. Et pas l'objectif sportif, l'objectif social. Et que c'est une destruction d'enfants. Il faut vraiment le dire. Parce que l'élite, si ça s'appelle l'élite, c'est qu'il y a très peu de place. Mais vraiment très, très peu de place.
Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Oui. Ça veut dire que, on le sait, c'est ce que souvent, j'entends des gens qui, quand ils arrêtent le sport à 18 ans, on sait ce. T'as l'impression qu'ils ont fait du sport de haut niveau. Non, ils étaient à une étape. Et en fait, il y a encore beaucoup d'étapes après pour être vraiment sportif de haut niveau. Et que ce chemin-là, il y a intérêt à avoir beaucoup d'amour dans ce qu'on fait pour pouvoir y arriver. Sinon, c'est impossible. Impossible. C'est l'amour de ce qu'on fait qui fait qu'on arrive à passer des étapes qui sont douloureuses. C'est-à-dire, mais quand tu regardes ça à la télé, voiture, le machin, les dollars à la fin... On a l'impression d'être dans une série TV. C'est pas une série, le sport de haut niveau.
Oui, c'est venu en même temps que la télé-réalité, en même temps
oui,
aussi.
Oui. C'est comme la politique est tombée dans ce piège-là aussi. C'est-à-dire que tout le monde est tombé dans ce piège de l'individualisme. C'est-à-dire qu'avant, quand tu rentrais dans une équipe sportive, je reviens à moi, quand tu rentrais dans une équipe...
Je te lâcherai pas, de toute façon.
Quand tu venais dans une équipe sportive... Il y avait un respect du meilleur joueur de ton équipe. Bon, par exemple, moi, j'ai joué avec Jackson.
Richardson.
Quand je suis arrivé en 97, on parle du mec, il faut vraiment se souvenir, c'était le meilleur joueur du monde.
Ah, une légende.
Quand il est rentré sur un terrain, même toi, tu jouais avec lui, tu avais des frissons, pour te dire. Mais derrière, le reste de l'équipe acceptait ça et se mettait au service d'un collectif. Il y avait des ouvriers dans cette équipe, des bâtisseurs, des gens qui te mettaient la base, et invisibles, mais on portait ce truc-là et on l'acceptait. Aujourd'hui,
tout le monde veut
ils veulent tous être les patrons, celui qui va avoir le plus de vues. Et en fait, c'est hyper destructeur et ils passent à côté de quelque chose. La médaille est une chose, mais le plus important, c'est la manière dont on va la conquérir. Les émotions, c'est pas juste les émotions de la victoire, c'est toutes les émotions, qu'elles soient basses ou hautes. Pourquoi le sportif de haut niveau est quelqu'un d'à part? C'est que contrairement, et c'est très dur de dire ça pour les gens qui n'ont pas l'occasion de le vivre, mais c'est l'endroit où tu vis l'amplitude émotionnelle. C'est-à-dire que tu vis des émotions positives qui sont juste hallucinantes et difficiles à expliquer, mais aussi des détresses incroyables.
On en prend des claques.
Et en fait, c'est ça qui fait cette construction.
Oui.
Et donc, moi, quand on me parle de... On me dit, une question qui revient souvent, ça t'a fait quoi d'être champion olympique? Mais en fait, si vous voulez que je vous explique ça, il faut que j'explique toutes les gamelles qu'on s'est prises. À se dire, est-ce qu'on y retourne ensemble? Et quand t'es avec des mecs, ça fait 10 ans que tu joues avec eux, et à chaque fois, on se relève et on y va ensemble... Ben là, en fait, tu as appris plus que du sport. T'as appris, ce sont des leçons de vie.
Justement, quand le petit Olivier, qui commence à bien jouer du ballon, a décidé de devenir champion?
J'ai jamais décidé de
devenir champion. Ça s'est venu, c'est venu petit à petit. Ça s'est enchaîné.
Écoute, pour te raconter réellement ma... Et je sais pas d'où ça me vient d'être comme ça. C'est que... Je sais voir les opportunités. Je ne passe jamais à côté d'une opportunité. Comme dirait, tout le monde se paye la tête de Jean-Claude Van Damme. Mais en fait, il n'y a que les idiots qui se moquent de lui. Être aware, ça veut dire, c'est d'être alerte. C'est pas passer à côté de sa vie, pas passer à côté des opportunités. Et en fait, ce qui fait passer à côté des opportunités, c'est la peur. Je ne vais pas y arriver, c'est trop dur. Et en fait... si je devais piquer quelque chose des anglo-saxons, c'est cette expression « dare », oser. oser, parce qu'en fait, quand on ose, ben, on s'ouvre tous les champs des possibles, des champs possibles de l'échec aussi. Mais tellement de choses. Et moi, si j'ai un apprentissage et quelque chose que je voudrais transmettre, c'est ça. C'est que j'ai eu cette chance, je ne sais pas pourquoi, parce que ça devait faire partie de moi. C'est une des premières fois que je vais dire ça. Je n'ai jamais peur. Quelle que soit la situation, je l'accepte.
Ça fait t'as partie. Ni peur de gagner, ni peur de perdre,
Non.
ni peur d'être moyen, ni... t'as pas peur.
Voilà. La seule chose où je peux avoir peur pour les miens. Mais moi, j'ai... Et on ne va pas appeler ça la confiance, c'est une manière de vivre. Et qu'il se passera toujours des jours meilleurs, et en fait, il ne faut jamais lâcher. En fait, la victoire, elle est juste à côté, sauf qu'on ne la voit pas. Et en fait, entre la victoire et toi, il n'y a qu'une seule chose, c'est les échecs.
Oui.
Et après, pour atteindre la victoire, ça dépend de la manière sur tes obstacles, comment tu les passes et comment tu les surmontes. Et en fait, au fur et à mesure que tu surmontes les échecs, tu construis quelque chose qui est incroyable et tu t'aperçois qu'en fait, à chaque fois, ce que tu as soigné, c'est tes petites peurs qui te font aller dans l'échec. Une fois que tu as passé ça, c'est autre chose. Et donc, moi, quand j'arrivais dans une équipe, racontez quoi, j'ai même en cadet, hein, dans mon petit club de Vers-sur-Marne, je regardais le meilleur joueur et je disais tout simplement, oh, j'aimerais bien jouer comme lui à la fin de l'année. Et ce qui est arrivé, c'est que toute ma carrière, j'ai toujours doublé tout le monde.
Excellent.
Et j'ai fait ça tout le temps. Quand j'étais à Livry-Gargan, j'arrive en espoir, il y avait une équipe première, j'ai dit, oh, j'aimerais bien jouer juste un match. Je te jure, juste un match.
Oui.
J'ai joué un match parce qu'un joueur s'était blessé. Un an et demi après d'avoir été en équipe d'espoir, et ça faisait 5 ans et demi que je jouais en balle, et j'ai joué mon premier match en première division. Opportunité, et je ne l'ai pas loupé.
Et tu ne l'as pas loupé.
Et je ne l'ai pas loupé. Après, un peu plus tard, parce que je suis rentré en équipe de France, j'avais 24 ans, j'étais à la fac, je m'amusais, j'étais avec mes potes, moi je faisais du handball pour m'amuser. Et on rigolait bien d'ailleurs, parce qu'on rigolait bien. Et un jour, je regarde l'équipe de France, je dis, j'aimerais bien juste avoir une sélection.
T'en avais plus de 200.
Ouais, 245,
ouais,
un truc comme
ouais.
Ça.
Oui.
Mais, un jour, Daniel Constantini, et le pire, c'est que c'est pas mon poste allié, je suis arrière à la base. Je me suis entraîné combattant en Joinville à l'aile vite fait, et je suis rentré en équipe de France, on m'a mis là. Donc voilà, un parcours un peu spécial. Et quand, une fois que je suis rentré, je ne voulais plus sortir, donc je me suis donné les moyens de ne pas sortir, toujours. Tout en me disant que, quoi qu'il se passe, le fait d'avoir déjà porté le maillot de l'équipe de France, c'était déjà un honneur pour moi. Dans mon parcours, je ne me suis jamais mis de pression, puisque en fait, mon parcours, ce n'était pas d'être là. Donc, j'ai vécu toute ma carrière comme ça. Et je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai arrêté à 35. Hein,
oui. Capitaine de l'équipe de France olympique. Voilà,
j'ai dit à l'entraîneur adjoint, Sylvain Noué, à qui je dois beaucoup parce que c'était lui l'entraîneur du bataillon de Joinville et qui a proposé mon nom à Daniel Constantini à l'époque alors que je n'existais pas dans les tablettes fédérales. Qu'est-ce qu'il m'a dit, mon Sylvain ? C'était un mec incroyable et à la fin du BJ, il me dit « Ah, il y a une place qui se libère en équipe de France. » Et moi, je pensais que c'était une blague. Parce qu'en fait, je n'avais pas de rapport. Je faisais le BJ avec lui, mais je n'étais pas en équipe de France Espoir. Il y avait Jérôme Fernandez avec moi.
Oui.
Moi, j'avais déjà vu son potentiel. Je dis, c'est quoi ce mec ? Et il n'était même pas titulaire en équipe de France. Un mec incroyable. Mmh. Et à l'époque, il avait 1 mètre de détente verticale. Je fais, comment une grande saucisse de 2 mètres peut sauter aussi haut ? Et après, il a eu la carrière qu'il a eue. Et une fois que je suis rentré en équipe de France, j'avais plus envie d'en sortir. Il y a 30 ans, j'ai dit à Sylvain Noué, le jour où il y a quelqu'un qui me dépasse sur la piste, j'arrête. Quand on est arrivé en 2008, je lui dis « Bon, je suis désolé Sylvain, mais je ne vais pas attendre, je vais arrêter quand même. » C'est-à-dire que je n'ai jamais eu personne qui m'a dépassé sur la piste.
Sur l'entraînement.
Oui.
C'est quoi ce qu'on appelle sur la piste, c'est les footings ou le sprint?
Non, sur tout ce qui était endurance.
Endurance.
Endurance, j'étais incroyable. Ouais, je viens du cross-country, moi.
Ouais.
Et donc, j'aurais plutôt suivi Mehdi Bala, tu vois, à la base. C'était plutôt ça mon truc. Et ce qui a fait de moi un joueur atypique. Un petit peu de retard techniquement, mais par contre, on savait que quand je mettais le pied sur le terrain, de la première à la dernière seconde, je ne ratais pas une seconde d'un match. Ouais.
Et quand tu arrives en équipe de France, tu disais au début, il y a eu Jackson.
C'était flippant.
Ouais.
C'était flippant parce que je te dis, je jouais à Vers-sur-Marne. Et quelques années plus tard, je me retrouve à jouer contre l'OM Vitrolles, quoi. Et il y a Jack, et c'était des mecs que je regardais à la télé. Tu vois, j'allais en tant que spectateur au tournoi de Bercy.
Oui.
Supporter l'équipe de France, avec aucune idée d'être sur le terrain un jour. Et un jour, tu te retrouves déjà en face de lui. Alors ça, c'était une expérience incroyable, oui. Hein, parce que dans cette équipe de l'OM Vitrolles, on va leur rappeler un petit peu au Barjo, parce qu'il y avait Laurent Munier, oui. Il y avait Philippe Gardan, oui. Frédéric Vol, Jackson Richardson, Thierry Perreux, Eric Quintin, tu vois l'équipe, mm-hmm. Tu vois l'équipe. Incroyable, c'était juste, ils étaient fantastiques, et nous on les regardait. C'est, tu vois cette image, oui. Comment nous... Même quand on joue en première division, comment on avait un respect pour les internationaux.
Dans ce podcast Guillaume Gilles, et qui m'a dit on est tous les descendants des Barjo.
Mais bien sûr, c'est ce qui fait notre particularité. Et donc ce premier match contre l'OM Vitrolles, je mets un but. Je me souviens mettre un deuxième but. Et là, Laurent Munier vient me voir, il me dit toi, je vais m'occuper de toi, et il m'a fait flipper. Et à la fin du match, il était très dur avec moi, très très dur, très très dur. Et Gardan qui rigolait, je m'en souviens, je crois que c'était hier, et Jack, c'était Jack. Et à la fin du match, il vient me voir et il me dit, avec Gardan à côté, il me dit, bienvenue en première division. Et ça, c'est un plus bel apprentissage que tu puisses avoir.
Là, tu es validé par les Barjo.
Ils te disent, le terrain, c'est le terrain. C'est ça qui te racontait. C'est que quand tu mets les pieds ici, là, c'est montre-nous ce que tu vaux. Et si tu vaux quelque chose et que tu te tais, que quand tu prends un coup, tu ne dis rien, tu seras validé. C'était mes rencontres avec eux. Après, jouer en équipe de France avec Jack, avec Stoplin. On a eu beaucoup de chance.
Oui.
On a eu beaucoup de chance parce que, tu sais, j'ai compris que plus tard, pourquoi les gens s'attachaient à nous, parce que réellement, à mon avis, devait se dégager au-delà des victoires, ou pas des victoires, la vraie essence de ces gens, c'était des vrais mecs. Mm-hmm. Ce sont des gens, ils ne te laissent pas indifférent, tu t'assois à une table avec eux, c'est juste incroyable, tu peux y laisser des neurones aussi, tu peux y passer des nuits à refaire le monde, on refaisait le monde... comme on disait, c'est après un match, il faut toujours boire un coup. Pour une raison simple, c'est que tu bois un coup quand tu as gagné pour célébrer ta victoire, et tu bois un coup en équipe pour oublier ensemble la défaite. Donc on picolait tout le temps.
Oui, mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, puisque maintenant les joueurs, alors entre les selfies, les vidéos qu'il faut faire, etc., et puis ils rentrent dans leur chambre et ils sont sur leur téléphone ou leur série, ou leur. C'est plus. Il y a. Jérôme Fernandez, justement, me disait, il a coaché l'équipe d'Aix, et il dit en fait, à des moments, j'étais obligé d'organiser moi-même des soirées après match ou avant match. Organisé, quoi.
C'est...
Alors que vous, c'était l'inverse. Fallait peut-être un peu les freiner fois, les soirées.
Non, fallait toujours se freiner parce que la vie ensemble était aussi importante que ce qu'on voulait faire sur le terrain. Et tu sais, on a toujours été proche du rugby, toi, de cette génération-là. Et le rugby, quand tu parles avec les gens de notre génération qui ont fait le rugby, on était aussi proches parce qu'on portait les mêmes valeurs. On portait les mêmes valeurs.
Et puis tu te dis les choses dans ce moment-là.
Ouais, c'était des vraies histoires. Le mot, on peut plus utiliser des mots comme ça, mais c'était dans le sens générique. C'était des vraies histoires de bonhommes. Hein. Mm-hmm. De bonhommes, parce que En fait, tu arrives, tout le monde est différent. T'as vu, bah, tu vois, on a des Savoyards, t'as vu les Savoyards, les têtes de pioche que c'est, hein, les Savoyards, les têtes de pioche que c'est. Et on a des Savoyards, des gens qui venaient d'îles différentes, même dans les îles, on est différents.
Ah,
la Réunion, les gens ne perçoivent pas ça, mais on apprend à connaître des autres. On avait, tu vois, André Golitch, on a eu Karabatic, des gens pleinement ancrés dans ce qu'est le maillot bleu. C'est important de le dire.
Oui.
Parce qu'on part souvent, tu sais, des naturalisés, des... Non, au handball, c'était pas le droit qui était important. Parce qu'aujourd'hui, on s'appuie sur le droit. C'est-à-dire que si, par exemple, la FIFA décide que tu arrêtes de jouer un an avec ton équipe nationale, et même si tu ne parles pas la langue, tu peux aller jouer dans une autre équipe, au handball, ça aurait été impossible. Même si, en droit, c'est comme avoir un entraîneur étranger en équipe de France. Même si en droit, c'était possible, si à un moment, André Golitch, je prends cet exemple, j'embrasse son père Bourreau, qui était mon entraîneur aussi, ou Nicolas ont été dans notre équipe, c'est parce qu'en fait, ils portaient les couleurs, mais plus que n'importe qui. C'était comme des frères. Donc, on ne se pose pas... quand les gens se... prennent ce maillot qui veut tout dire pour nous, la manière dont eux l'ont embrassé, mais ils sont plus, je vais pas dire plus français, ils sont plus patriotes que beaucoup.
Oui.
C'est un truc de dingue. Eux savaient le poids de porter ce maillot. Donc ouais, des vraies histoires de vie qui marquent et qui m'ont construit.
Dans le vestiaire, tu avais d'ailleurs un rituel particulier, toi ? On est reparti. Donc, coup de stress, là, une petite coupure. On était sur le vestiaire, voilà, ta routine dans le vestiaire.
Alors, ma routine dans le vestiaire...
Est-ce que tu en as une, déjà ?
Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Pas du tout. Je sais l'importance des choses, mais j'ai une certaine manière de prendre les émotions. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas. Mais je me concentrais plutôt sur mes potes.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils étaient tous différents. Je peux te les décrire tous les uns après les autres et savoir ce qui les anime, ce qui leur fait peur. Et je pense que si Onesta, elle a vu quelque chose en moi, c'est ça. Parce que...
Du coup, c'est lui qui t'a nommé capitaine.
Ouais,
voilà.
Oui. Après les Jeux d'Athènes.
Après Athènes.
Il m'a dit que ouais, potentiellement, il aimerait bien que ça soit moi. Je ne comprenais pas trop pourquoi à cette époque-là. Il m'a suffi juste de le regarder parce que, en fait, la vraie force de Claude Onesta, ce n'est pas l'entraînement. Hein. Tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'on est lui aussi. Hein. Mais par contre, que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas, parce qu'il a aussi ses détracteurs.
C'est un manager.
C'est un manager formidable. C'est le mec
qui a su déléguer.
Bon, non, ça c'est faux.
Il n'a pas su déléguer avec les entraîneurs à droite à gauche.
Non, ça c'est ce qu'il raconte en séminaire.
Ah.
Oui, il délègue.
Oui.
En fait, tout ce qu'il n'a pas envie de faire, il prend les meilleurs à côté de lui.
Oui.
C'est Steve Jobs. Non, mais c'est vrai, Steve Jobs était comme ça, un manager de folie, avec des idées de folie. Mais le plus important chez Onesta, c'était sa capacité à savoir lire l'être humain. C'est-à-dire que le matin, quand tu te lèves, il savait déjà que toi, tu ne vas pas jouer, toi. Il était capable de voir ça.
Mais toi, tu es comme ça aussi.
Oui, mais moi, je suis...
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il t'a choisi comme capitaine.
Je sais pas.
Non.
Je sais pas. Je pense que j'étais celui qui parlait à tout le monde à un moment où aussi les groupes, tu sais, les groupes, ils bougent dans une équipe. Et en fait, l'important dans un groupe, c'est, au-delà des objectifs, c'est maintenir un équilibre humain aussi. Parce que tu peux avoir la technique la plus belle, si les hommes, ils s'entendent pas, ça marche pas. Donc, en fait, c'est aussi maintenir un équilibre humain, un équilibre des forces avec... ce qui est très dur dans le sport collectif, qui est pas assez dit... c'est que tu as tous les meilleurs du monde dans la même équipe, des égaux de folie, et qui sont chacun les stars dans leur équipe, et qu'à un moment, tu arrives dans une équipe où tout est redéfini. L'équipe de France, ce n'est pas un club.
Mais ça veut dire que toi, dans le vestiaire, tu allais voir les athlètes, tes coéquipiers. En fait, les uns après les autres, quoi, quelque part, en fonction si tu sentais qu'ils avaient besoin que tu ailles leur parler. Et est-ce que tu avais quand même un discours général ou,
oui, toujours un discours général, mais en général, on connaissait tous. Cette équipe, à la fin, on avait cette particularité de tous se connaître depuis longtemps. Donc, on savait ce qui nous irritait, ce qu'il ne fallait pas faire. C'est ceux qu'on savait comment les booster. Par exemple, Jérôme Fernandez, il fallait lui taper dessus.
Ouais.
Si tu lui tapais dessus, ça devenait un ogre. Mais il fallait lui taper dessus d'abord. Tu faisais la même chose. Tu fais la même chose à Lucas Ballot, tu l'as perdu. Ouais. Ou à Michael Guégou, tu l'as perdu. Ouais. Donc, vraiment savoir, après, tu avais nos têtes de pioche, tu n'avais pas besoin, ils étaient prêts au combat tout le temps, tu vois. Bertrand Gilles, il suffisait que tu me mettais au milieu et découpais tout ce qui passait. Didier était comme ça aussi.
Oui.
Par exemple, Didier, oui. J'avais une technique pour le motiver, parce que c'était mon coéquipier de chambre. Je lui faisais visualiser ses adversaires. Je te dirais pas ce qu'il dit, oui. Je vous dirais pas ce qu'il disait sur les adversaires, mais je le préparais la veille.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il arrivait le matin du match, ça ne servait à rien de parler à Didier. Il savait qu'il avait son rôle à jouer et être concentré sur son rôle. Et c'est ça qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait un projet collectif, mais chaque joueur savait exactement quel était son rôle et il fallait qu'il soit bon dans le rôle et même le remplaçant. Et c'est pour ça que chez nous, on n'aime pas parler de remplaçant, parce qu'en fait, si tu vas aller au bout, même le mec qui va jouer 5 minutes et que c'est son rôle...
Ou celui qui va tirer les pénalties, des fois...
Ça, c'est très dur. Ça, c'est très dur.
Ouais, mais c'est dur. Des fois, il rentre juste pour tirer les pénalties.
Par exemple.
Voilà, oui.
Fantastique.
Il faut le faire.
Mais c'est très, très dur. Très, très dur. C'est un des exercices les plus compliqués, même si on dit pénalty, c'est simple, mais c'est très, très dur. Oui. Mais, par exemple, d'être deuxième gardien derrière Thierry.
Oui, Thierry Meyer.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir. Darouda Karaboué, c'était un des meilleurs gardiens du monde. Mais qui acceptait ce rôle... Par contre, en plus, un rôle délicat parce que le moment où on te fait rentrer, il ne faut pas se louper. Christophe Kempe a eu ce même rôle. Et donc, le truc c'est qui était important, comme je te le disais tout à l'heure, on décide qu'il y a certains qui sont autorisés à être les stars, les représentants de l'équipe. Mais par contre, tous ces représentants de l'équipe sont plus qu'ultra respectueux de tout le travail qui est effectué, même par celui qui joue 4 minutes. Il n'y a pas d'élément indissociable de l'équipe.
Le matin de la finale, des finales d'ailleurs, des finales que tu as gagnées, Monde, Europe et Jeux, celles que tu veux, tu sentais que vous alliez gagner ?
Non.
Non.
Non, non, non. Si, une fois, c'est quand même. Non, non, les matins de finale, ce sont des atmosphères exceptionnelles. C'est-à-dire que tu rentres dans... en plus, en général, quand tu arrives en finale, c'est que tu as déjà, en termes de concentration, tu vas très très loin. Parce qu'il faut enchaîner les performances avec la fatigue. Et l'équipe, quand elle arrive dans les finales, et je pense que toutes les équipes qui arrivent dans les finales arrivent avec un état second, et qu'il faut... on sait une chose, c'est que pour gagner une finale, il faut avoir lâché très peu d'influx sur la demi-finale.
Bien sûr.
Très peu d'influx sur la demi-finale. Et si on doit conclure sur une anecdote là-dessus, quand on joue les Croates en demi-finale en 2008, la meilleure équipe de Croatie qu'il y ait jamais eu, avec peut-être l'un des joueurs les plus extraordinaires que j'ai jamais vu aussi, Ivano Balic, qui joue en face, on sait que de l'autre côté, il y a Islande-Espagne. On sait que celui qui va gagner cette demi-finale est champion olympique, a des grandes chances de devenir champion olympique. Et c'était un match très compliqué parce que sous plusieurs axes, c'est que au village, Jérôme Fernandez se casse la main.
Oui, je me rappelle, il est dans le plâtre.
Mais
dans
nous, les tribunes. Contrairement, on demande à ce qu'il reste avec nous. On avait vécu tellement d'aventures, c'est-à-dire que c'était impossible pour moi que ma dernière aventure, Jérôme, n'y reste pas avec nous. Donc il la vit avec nous, avec son plâtre, parce que normalement il était prévu qu'il rentre. Hein. Et le moment de la demi-finale, la veille, il jouait avec le gardien de Barcelone, il jouait à Barcelone, Jérôme, et ils échangent avec le gardien de Barcelone, Vignolo, certes, et Jérôme, avec la main cassée, c'est Cédric Burdet qui joue à sa place. Et là, Le Croate lui dit, le gardien de but, Vegnolozer, lui dit, ah bah, de toute façon, tu n'es pas là, donc lui, on va le laisser shooter. Qu'est-ce que fait Jérôme? Il vient à table et il le répète à Cédric Burdet. Et Cédric Burdet, de ce moment-là jusqu'au lendemain du match, ne dit pas un mot. Parle pas. C'est-à-dire que.
Oui.
Et quand le match commence, effectivement, ils font une défense très agressive sur Nicolas Karabatic et Daniel Narcisse et très bas sur Cédric Burdet. Et bien, c'est Cédric Burdet qui nous débloque la situation. Et il fait un de ses meilleurs matchs, quoi. Un de ses meilleurs matchs ce jour-là. Et grâce à ce que Jérôme a dit. Et la dernière chose, c'est que on voit les Islandais qui font le match de leur vie et qui battent les Espagnols. Et à la mi-temps du match, on sent le truc qui tourne. Je dis au mec, bon, on va regarder quand même le reste au village. Et on voit les Islandais qui battent les Espagnols. Et on voit une chose incroyable, c'est que la moitié d'entre eux se met à pleurer. Et on se regarde. Je dis, bon, les gars, demain, il y a entraînement. On va se coucher. Et on part comme ça. Et on joue la finale. Et je leur pose la question. Vous avez pensé quoi? En fait, on savait qu'on était champion olympique, mais on n'avait pas le droit de le dire. Et on avait tous pensé la même chose au même moment. Et la dernière anecdote, c'est que, tu sais, il y avait eu cette histoire avec l'escrime, avec le remplaçant qui n'avait pas
Oui,
la
qui n'est pas de médaille,
médaille.
oui.
Et donc, les mecs faisaient la gueule sur le podium. C'était avant nous. Et ça m'avait marqué. Et le moment où on gagne, il se passe deux choses. Tu as Jackson qui passe par-dessus la barrière.
En fait.
Et en fait, là, je dis, la boucle est bouclée.
Oui.
C'est-à-dire que
Vous avez
Jackson,
pris Jackson et vous l'avez envoyé en
non,
l'air,
mais il
non,
nous
ouais.
a
Oui.
pas reconnu à sa juste valeur. Surtout pas porté à sa juste valeur par notre fédération, ça c'est évident. Mais pour nous, c'était obligé qu'il soit là, quoi. Et en fait, le vrai signe de cette équipe, de cette vie dans ces équipes de France, c'est le fait que notre grand frère Jackson soit avec nous à ce moment-là.
Ouais.
Parce que c'est lui qui a montré la voie et c'est le titre que je sais qu'il aurait voulu avoir et qu'il aurait mérité d'avoir. Et ça continue parce qu'on demande à Jérôme Fernandez de descendre. On lui dit, mets ton survêt, descends. Je lui dis, descends. Et quand on arrive dans le couloir pour reprendre les médailles, les Chinois comptent et
Oui.
disent, il y en a en trop et ils veulent faire sortir Jérôme Fernandez. Et on refuse de rentrer.
Je me rappelle.
On refuse de rentrer. Nous, on ne pensait pas à la médaille, mais on voulait qu'il soit avec nous sur le podium. Et là, il se passe un truc incroyable. Vu que c'était le dernier match, les Chinois veulent finir et faire le
Oui.
protocole et ils l'autorisent à rentrer. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que ça a fait jurisprudence.
Oui.
C'est qu'il restait une médaille, il lui donne la médaille. Donc, en fait, il y a 15 médailles. 15 médailles. Et ça, pour moi, c'était en fait la fin de cette aventure, plus que autant que la victoire. C'est-à-dire plus que la victoire, c'est tous ces raccords de ces vies humaines, eh ben, elles étaient réunies à ce moment-là. C'était un truc de dingue.
C'est fort.
Ouais. C'est ce qui nous lie aujourd'hui. Tu sais, quand tu vis ces aventures, on ne se voit pas tous les jours. On a tous pris des voies différentes. Des fois, même, on n'est pas d'accord, hein, sur des trucs. Avec mon Berthe, des fois, on n'est pas d'accord. Je l'ai dit la dernière fois. Mais par contre, on a un truc entre nous, c'est que quand on se croise, en fait, il y a ce truc invisible.
Un lien.
Ah ouais, un truc de dingue qui nous unit, ouais. Ouais, et ça n'a pas de prix, plus que la médaille.
Alors, on va terminer. J'ai trois questions à la fin, classiques. Mais peut-être que tu as déjà répondu. Est-ce que tu as une devise dans la vie? À part le fait que tu n'as jamais peur. Mais...
Alors, il y en a une qui était dans la maison de ma grand-mère, hein, en Guadeloupe, et qui me fait rire et qui est tellement vrai. C'était écrit, tu sais, ces petits trucs dans les trucs en bois là, avec une petite Maxime. C'est ne me donnez pas de conseils, je sais me tromper tout seul.
Excellent. Ah oui. Et ça, j'adore. Elle est très bonne celle-là. L'autre question, c'est est-ce que tu aurais changé quelque chose?
Non. Parce qu'à chaque fois qu'on change quelque chose, c'est une autre voie qu'on prend. C'est un autre
Oui.
chemin dont on ne connaît pas la finalité.
Oui, est-ce qu'il y a de bons ou de mauvais chemins? On ne sait
Non,
pas.
non, non. Il y a celui qu'on souhaite
Celui.
emprunter.
Exactement.
Qu'on souhaite emprunter. Et une fois qu'on décide du chemin qu'on veut emprunter, il faut l'emprunter à fond.
C'est clair. Alors, je vais te dire des mots. Il faudrait que tu me dises par association d'idées à quoi ça te fait penser. Pas difficile. Handball.
Fraternité.
Jeux olympiques.
Graal.
Golf.
Pur plaisir.
Guadeloupe.
Maison.
Paris 2024.
Je sais pas.
Médaille d'or.
Compliqué.
Le présent.
Essentiel.
Et l'avenir?
Que dire sur l'avenir? Que dire sur l'avenir? L'avenir, c'est le présent.
C'est très bien, on ne l'avait pas encore sorti. Et alors, pour terminer vraiment, là, parce que sinon, on pourrait y passer toute la nuit. Mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi, une belle trace?
Une belle trace, c'est un chemin qui donne envie aux autres de suivre.
Merci Olivier.
C'était très ski.
Ah oui, oui. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes. Allez, tchuss !